Les miracles de Jésus. Quels sont les miracles de Jésus avec lesquels vous avez le plus de mal? Déjà, du mal à les croire, croire qu'ils sont réels, que ce sont vraiment des miracles, qu'ils ont vraiment eu lieu. Autrement dit, que vraiment Jésus est Dieu. Ou pour le dire autrement, que Dieu est avec lui. C'est ce que dit au début de l'évangile de Saint Jean, Nicodème. Quand il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Les signes. Saint Jean parle en effet de signes. Dans l'évangile de Saint Jean, il n'est pas question de miracles, à la différence des autres évangiles. Ou on peut prendre les choses de façon plus positive. Quels sont les miracles de Jésus que vous préférez? On a le droit d'avoir des préférences. On se dit, lesquels? Est-ce que c'est la guérison d'un lépreux, d'un paralytique, d'un aveugle, d'un possédé? Est-ce que vous mettez sur le même plan la multiplication des pains qu'on vient d'entendre et la marche des eaux, la marche sur les eaux qui suit juste après dans l'évangile de Saint Jean? Ou bien est-ce que vous vous contentez, l'expression n'est pas très juste, mais est-ce que vous vous contentez de la résurrection? Vous dites, ça me suffit. Cette résurrection qu'il avait lui-même annoncée, ça faisait partie de son enseignement en parole. Le don de la vie éternelle. Et non seulement il l'avait annoncé, mais il l'avait en parole, mais il l'avait montré en acte. Il avait rendu la vie à des morts. La fille de Jaïr, le fils d'une veuve dans un village appelé Naïm, bien sûr son ami Lazare. Et non seulement il avait pratiqué, mais il en avait confié le pouvoir à ses apôtres. Lors de leur envoi en mission dans l'évangile de Saint Matthieu, on l'entend, proclamer que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Et de fait, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a deux résurrections qui sont faites par les apôtres, par Pierre et par Paul. Pierre, il fait cette résurrection à Joppé, c'est l'ancien nom de la ville de Jaffa, c'est à 70 km au nord de Gaza, une femme nommée Tabitha. Et la seconde, c'est Paul, c'est un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, un adolescent du nom d'Eutychès, l'équivalent français c'est Prosper. Deux résurrections faites par les apôtres dans les livres des apôtres, de la même façon que dans l'Ancien Testament, les deux grands prophètes, Élie et Élisée, avaient chacun d'entre eux réalisé une résurrection. Élie, il avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Élisée, il avait ressuscité le fils d'une femme qu'on appelle la Tsunamite, chez qui il passait fréquemment. La Tsunamite, d'ailleurs, l'histoire dit qu'elle lui avait fait construire une petite chambre, pour, justement pour l'accueillir, moyennant quoi, en récompense. Elle avait eu un fils, elle qui en attendait depuis si longtemps, et puis le fils était tombé malade et était mort, et Élisée l'avait ressuscité. Non seulement Élisée l'avait ressuscité, mais Élisée avait aussi guéri un lépreux, le général Naaman, vous vous souvenez peut-être de l'histoire, parce que presque tous les miracles de Jésus étaient déjà présents d'une façon ou d'une autre dans l'Ancien Testament. Il y a une très grande continuité, bien sûr, de l'Ancien et du Nouveau, une très grande continuité des signes dans toute la Bible. Ce qui m'amène à vous proposer cette question. Quel est, selon vous, le plus grand miracle de l'Ancien Testament? Vous vous souvenant, vous diriez quoi? Est-ce que c'est la manne au désert qui préfigurait justement cette multiplication des pains? Est-ce que c'est la sortie d'Égypte, la traversée à pied sec de la mer Rouge, qui se referme ensuite et dans laquelle se noie Pharaon et toute son armée? Est-ce que c'est une de ces deux résurrections que j'ai évoquées? Quel est le plus grand miracle de l'Ancien Testament? Je vais vous proposer une réponse, mais je voudrais avant ajouter, si vous permettez, deux autres questions. Quel est, dans l'Ancien Testament toujours, le plus grand livre d'objection? Parler des miracles, c'est nécessairement parler des objections qu'on peut avoir, les objections de notre raison. Par définition, par nature, les miracles, ils ne sont pas possibles, raisonnablement, rationnellement. Ils ne sont pas possibles, et même d'ailleurs, certains pensent qu'ils ne sont même pas utiles. Il y avait un auteur très ancien des premiers siècles qui déjà posait la question, qui disait « À quoi bon avoir nourri des foules quand tant de gens meurent encore aujourd'hui de faim ? À quoi bon avoir guéri des aveugles et d'autres malades alors que la santé n'a progressé que quand même dans des régions particulières du monde que dans certains pays et certains peuples privilégiés ? Ou encore, quelle était vraiment l'utilité de marcher sur la mer ? Je ne pose pas de savoir quelle est la question de l'utilité de changer de l'eau en vin, parce que ça, je pense que la plupart d'entre vous ne contestent pas cette utilité. Et puis, troisième question, en prolongement des deux précédentes, quel est selon vous le miracle que nous devrions tous demander tous les jours dans notre prière ? Quel est le miracle qui ferait le plus de bien au monde ? Quel est le miracle que nous devrions demander chaque dimanche à la messe ? Vous savez, ça ressemble à un passage toujours de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le songe de Gabaon, lorsque Dieu apparaît pendant la nuit au jeune roi Salomon et qui lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Ce n'est pas exactement quel est le miracle que tu veux, mais « Demande ce que je dois te donner. » Et Salomon ne demande ni de très longs jours, ni une très longue vie, ni la richesse, ni la mort de ses ennemis. Il demande la sagesse, le discernement, un cœur intelligent et sage pour gouverner. Ah, si Dieu pouvait donner la sagesse à nos gouvernants. Ça serait un miracle. Je vais vous donner mes réponses. Encore une fois, ce sont des réponses que je vous propose. Ce n'est pas les réponses de l'Église, ce ne sont pas des questions, des points de foi. Le plus grand miracle de l'Ancien Testament, c'est le buisson ardent. C'est-à-dire un feu qui brûle sans rien consumer. Autrement dit, le symbole de l'amour de Dieu qui brûle sans rien consumer. Le feu divin. Souvenez-vous, dans le livre du prophète Daniel, l'histoire des trois enfants qui sont jetés dans la fournaise parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant le roi. Une fournaise terrible. Et il y a le roi Nabucodonosor qui va voir et qui dit à son entourage, il dit, mais dites-moi, on a jeté trois hommes ligotés au milieu de ce feu énorme. Et ils répondent, oui, c'est ce qu'on a fait. Et il dit, ben, regardez, on voit quatre hommes qui se promènent librement, indemnes, au milieu du feu, et le quatrième ressemble à un ange, un être divin. Le buisson ardent, ce feu de Dieu, le buisson ardent, c'est le miracle qui se reproduit à chaque messe. Quand sans rien changer aux apparences du pain et du vin, l'amour, le feu de l'amour, le feu de l'esprit fait qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. C'est du buisson en feu que Dieu s'est révélé. Pleinement, je suis qui je suis celui qui est. Et qui fait que dans l'enseignement que nous allons entendre pendant tous ces dimanches, Jésus peut dire, je suis le pain de vie. Le grand livre d'objections dans la Bible, c'est le livre de Job. Parce que c'est face au malheur, c'est dans le malheur, dans l'épreuve la plus terrible, que la raison humaine défaille. Que notre raison cherche des explications à tout prix, et même parfois des coupables. C'est le raisonnement des amis de Job qui viennent auprès de lui, mais qui, au lieu de le soutenir, cherchent une explication. Ah, qu'est-ce que tu as pu faire ? Il a dû faire quelque chose de mal pour qu'il lui arrive pareille misère. Et c'est encore comme ça que raisonnaient les disciples de Jésus devant l'aveugle-né, chapitre 9 de l'évangile de Saint Jean. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et moi, je vous le dis souvent, c'est la différence entre une célébration d'obsèques et une messe de mariage. Devant la mort, on veut des explications. Tandis que l'amour, c'est normal. L'amour ne nous étonne pas. L'amour, la joie, elle ne perturbe pas notre raison. Et le livre de Job se déroule comme une longue litanie d'objections. On peut le lire comme ça. Toute une série d'objections qui sont adressées au Seigneur, qui les écoute, qui les accueille patiemment, jusqu'à ce qu'à la fin, ils disent à Job, « Regarde, regarde la création, regarde la beauté, regarde la grandeur de la création, regarde, contemple ma puissance d'amour, adore ma puissance, fais-moi confiance. » Quel est le miracle qui ferait le plus de bien au monde? La réconciliation. Avec Dieu, bien sûr. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, dit saint Paul. Mais la réconciliation entre nous, dans tant de nos familles, toutes ces fratries, tous ces amis qui sont brouillés, séparés, éloignés les uns des autres, tous ces peuples en guerre interminable. Les commentateurs de la Bible et les exégètes disent que dans la Bible, la plupart des récits de vocation sont construits à peu près sur le même schéma. Dieu appelle et la personne répond par une objection. Elle dit « Ah non, non, je ne peux pas, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Ici d'ailleurs, Philippe, il a raison, on n'a rien à donner, on ne peut pas faire, on ne sait pas faire. Ces objections, il ne faut pas confondre les objections et les doutes. Les objections, c'est le saint travail de la raison. C'est la preuve que notre foi est vivante. Ce ne sont pas du tout contraires à la foi. C'est le signe, au contraire, que notre foi est vivante. Et nous en avons besoin de ces objections pour progresser, pour affermir notre foi. Ces objections, elles font partie de la prière. Elles font partie de notre dialogue intime avec le Seigneur. Ce n'est pas du tout lui manquer de respect. C'est le contraire. C'est apprendre à se mettre à son écoute. À chaque messe, nous célébrons la résurrection du Christ. Avec ce miracle de sa présence réelle, le miracle de la transsubstantiation, qui est la promesse de notre propre résurrection, si Dieu peut changer du pain et du vin en son corps et son sang. C'est pas seulement si Dieu peut multiplier du pain, mais si Dieu peut changer du pain et du vin en son corps et son sang, combien plus changera-t-il nos corps mortels ? Pour pouvoir participer, pour pouvoir le voir dans sa gloire, participer à sa vie. Moi, je suis le pain vivant, dit Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Voilà un bon chemin cette semaine dans la prière. Dites au Seigneur vos objections. Et, comme dit l'Évangile, écoutez-le.